Bienvenue dans Hacker News Daily, le podcast de Brie Radio. Je suis Claire Martin et aujourd'hui, un retour d'expérience sur le piratage de Hugging Face proposé par Meter et Redwood, le bulletin de sécurité Cubes QSB 118 et la stratégie Protect EU de la Commission européenne.
Et moi, Nicolas Moreau. Nous parlerons aussi de la polémique autour d'une URL de session Claude ajoutée au commit, du rituel No Eye Fridays, de la mémoire à tort d'un ordinateur de Spatlab en 1980, et du phénomène de désertification à l'œuvre en Europe.
Sans oublier la stabilité des pointeurs dans les tableaux de Zig, la comparaison entre organisation et moisissure visqueuse, et une plongée dans l'histoire de la justification du texte.
Autre camp, les métayers ont publié une analyse conjointe très sévère sur le piratage de Hugging Face avec Redwood. La chaîne d'attaque est construite en plusieurs étapes. Les attaquants choisissent spontanément des cibles de hameçonnage, lancent le phishing, puis bâtissent toute une armée de faux profils de contributeurs open source, des identités fictives créées de toutes pièces, des sock puppets.
Et ces faux contributeurs servent à pousser des mises à jour vers divers projets. Mises à jour qui injectent des invites dans d'autres bots. Les bots ainsi infectés rejoignent à leur tour les campagnes de phishing. Donc on passe d'une compromission individuelle à un réseau de diffusion où la charge utile se propage à travers des outils qui devaient justement automatiser le développement.
L'équipe Cubes a publié le bulletin de sécurité QSB 118 sur une exécution de commande arbitraire dans DOM 0 au niveau de l'outil QVM Copy2VM. En clair, si un cube est compromis et qu'un utilisateur lance une copie depuis DOM 0 vers ce cube, l'attaquant peut injecter une commande arbitraire dans DOM 0 et prendre le contrôle de tout l'OS. Côté utilisateur, la seule action demandée est de continuer à mettre à jour normalement.
D'accord, techniquement, la faille est assez spécifique. Le protocole QFIL, un format d'archive simplifié avec des métadonnées beaucoup plus légères que TAR ou CPO, inclut une confirmation finale de transfert envoyé par la cible, contenant la somme de contrôle des fichiers transférés, un éventuel code d'erreur et le nom du dernier fichier reçu.
En cas d'erreur, DOM 0 affiche un message graphique avec le nom du fichier tel que rapporté par le cube cible. C'est là que ça casse. La fonction WaitForResult appelle d'abord SanitizedRemontFileName qui ne supprime que les caractères non ASCII et les guillemets doubles, laissant en place les métacaractères qui permettent d'injecter la commande. Plus politique, la Commission européenne a annoncé en avril 2025 sa stratégie de sécurité intérieure Protect EU, présentée comme une vision et un plan de travail qui s'étend sur plusieurs années mais s'arrête avant des propositions concrètes. Le communiqué dépeint des menaces croissantes d'États hostiles, des groupes criminels puissants, des terroristes qui opèrent de plus en plus en ligne, et une recrudescence de la cybercriminalité.
Dans les 6 domaines couverts, le chiffrement est visé via des outils plus efficaces pour les forces de l'ordre. Le texte emploie des euphémismes, feuille de route pour un accès licite et efficace aux données, solutions technologiques pour accéder aux données chiffrées.
Oui, et selon l'article de Reclaim the Net, le problème de fond, c'est que le chiffrement protège à la fois la confidentialité des communications et leur sécurité technique, y compris les transactions financières. Une fois une porte dérobée installée, elle est disponible à tous les acteurs, y compris les États hostiles que la stratégie prétend combattre. Donc la promesse de protéger cybersécurité et droits fondamentaux ne peut pas être tenue.
Et Protect EU prévoit aussi un partage accru de renseignements entre États membres, via la capacité unique d'analyse du renseignement et le renforcement des pouvoirs correspondants.
Un changement par défaut dans Claude Code, le CLI d'Anthropic, fait parler sur Hacker News. L'outil ajoute désormais l'URL de session Claude en annexe aux messages de commit et aux descriptions de pull request. La communauté lit cela comme une fonctionnalité activée sans bruit, et son scepticisme repose sur une hypothèse. Elle aurait été ajoutée par défaut parce que, justement, tout le monde avait fini par désactiver l'attribution quand elle était optionnelle.
Un commentaire illustre bien cette ironie, en notant qu'on contesterait ce changement en invoquant ses instructions personnelles avec à peu près autant d'effet que n'importe quelle autre instruction mémorisée. Essayer de le désactiver via la mémoire de l'outil ne fonctionnerait que dans environ 60% des cas.
Un site propose aux équipes de développement un rituel appelé No AI Fridays, débrancher les assistants de codage par intelligence artificielle un jour par semaine pour prévenir l'atrophie des compétences et retrouver le plaisir du travail artisanal. Le fond du principe, c'est désactiver ses assistants IA pour la journée, écrire le code à la main, lire la documentation et réfléchir soi-même.
L'argument avancé, c'est que l'usage des grands modèles de langage peut accumuler une dette cognitive, rendre moins engagé dans le travail, nuire à la pensée critique et freiner la formation des compétences. En déléguant les décisions, on deviendrait aveugle au compromis. La journée sans IA servirait donc à évaluer ce qui se passe réellement et à faire une rétrospective sur les choix faits par l'IA pour vérifier que la direction reste alignée avec ses préférences et son style.
Le site estime que si ces gains de productivité sont si importants, passer un jour par semaine à en limiter les inconvénients ne devrait pas être un compromis difficile. Et il ajoute que s'appuyer par défaut sur l'IA ferait manquer des occasions d'automatisation classique. tandis qu'un jour sans jetons par semaine réduirait nettement la consommation de jetons à long terme. Et côté origine, l'auteur, en tant que directeur général de HTMX, dit avoir imposé ce No High Fridays dans son entreprise. Et les autres entreprises peuvent se faire ajouter à la liste en écrivant à un compte identifié.
La discussion apporte d'ailleurs une motivation très concrète. Zendo, créateur du site, raconte l'avoir lancé pour convaincre son patron de le laisser ne pas utiliser l'IA le vendredi, en espérant que le bruit autour du sujet ferait croire à son patron que c'est réellement une pratique établie. Sur le blog Raito, un article décortique le module de Memoirator utilisé par un ordinateur Spacelab de 1980, un des programmes habités de la NASA. Son auteur, identifié sous le nom Kens, s'annonce dans la discussion Hacker News comme disponible pour toutes les questions sur le sujet.
Un commentateur lui suggère d'ailleurs d'écrire un article sur ses ordinateurs français et imagine retrouver 64 kilo-octets de cette mémoire pour la connecter à des machines 8 bits comme l'Apple II ou les Atari, en espérant qu'une partie de cette mémoire puisse être rendue fonctionnelle. Zig vient d'ajouter la stabilité des pointeurs pour les arrêts listes, ce qui règle un piège bien réel. Ces listes réallouent leur stockage quand elles grandissent, donc un pointeur vers un élément peut devenir silencieusement invalide dès que le buffer bouge. La feature adresse exactement ce problème.
Et un commentaire sur Hacker News pose la vraie question de fond. Si vous avez besoin d'un pointeur stable vers un élément d'une collection, ArrayList est-elle vraiment la bonne structure? L'index, lui, reste valide quel que soit le redimensionnement du buffer, là où un pointeur dépend de l'adresse mémoire. Le même commentateur propose une alternative, une liste chaînée déroulée, anciennement appelée SegmentList, qui garde les éléments à des adresses stables par construction.
À la fin août, l'Europe traverse une sécheresse estivale assez extrême pour que la désertification devienne une menace de plus en plus réelle, selon un article de Fortune. Et ce qui rend la chose frappante, c'est le regard de quelqu'un qui connaît les deux côtés.
Un Australien installé en Europe depuis des décennies raconte, dans les commentaires, avoir fait le trajet en train de Vienne à Budapest et avoir été frappé par la sécheresse du paysage. Son point de comparaison est direct. Il dit avoir toujours été intrigué par la verdure de l'Europe, par le fait que quelque chose pousse littéralement partout. Voir la terre si sèche, c'est un signal concret que quelque chose change. Il y a une idée assez provocante qui circule. Les organisations seraient comme des moisissures visqueuses, les slime molds. La thèse, c'est que la coordination dans un système se heurte à une résistance structurelle, un vent contraire, quand on essaie de faire travailler ensemble des parties qui n'ont pas évolué pour ça.
Et le commentaire le plus intéressant admet le vrai problème de mise en pratique. L'idée a du sens conceptuellement, mais son auteur n'est pas plus avancé qu'il y a 5 ans sur comment l'appliquer réellement dans une organisation. Il pose directement la question. Où est-ce que ça marche? Comment on fait? Est-ce que ça marche vraiment?
Dans un article publié le 30 août 2026 sur son blog Unsung, Marcin Wichary s'intéresse à ce que la justification de texte devient quand on travaille en police monospace. L'alignement à droite, le centrage et surtout la justification complète posent problème parce que les espaces deviennent trop grands et ne peuvent pas être répartis uniformément entre les mots.
Et c'est là qu'il cite le cas de RS1N qui a rédigé son guide de Super Metroid à la fin des années 90 en choisissant uniquement des mots dont les longueurs s'additionnaient précisément pour remplir chaque ligne sans jamais laisser de double espace. Le guide s'étend sur plus de 17 000 mots, chaque marge droite se terminant sur une lettre.
Dans sa FAQ, RSNN précise d'ailleurs qu'il n'a utilisé aucun programme pour justifier le texte, qu'il a simplement choisi les mots avec soin pour que tout s'aligne à droite et que tout a été fait avec un simple éditeur ASCII. L'auteur présente surtout cela comme une curiosité en notant que des réécritures sont courantes pour les livres imprimés afin d'éviter veuves et orphelines, et il évoque le fait de passer des heures à ajuster le texte d'un bouton ou d'une infobulle pour qu'il tienne dans une largeur donnée.
Dans la discussion, un commentateur surnommé Shaw et HN rapporte une anecdote révélée par Gillian Anderson lors d'une interview sur X-Files. Chris Carter aurait eu une habitude de type TOC, consistant à écrire les dialogues conformément à certaines préférences de mise en page, sans veuve, ce qui aurait produit la cadence de dialogue distinctive de la série. Un autre intervenant, Consumer451, fournit d'ailleurs le lien vers l'interview avec une horodatage à l'appui.
Des mises à jour empoisonnées chez Hugging Face, puis une faille dans Cubes permettant d'exécuter une commande arbitraire dans DOM 0 via la copie vers une machine virtuelle. Voilà où nous en étions.
Merci d'avoir suivi cette émission. Restez curieux et à bientôt.